CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada de l'Université de Sherbrooke. Les étudiants de Pro Bono Students Canada ne sont pas des avocats et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente donc qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate ou encore un ou une notaire. Donc, bonjour et bon retour de vacances à tous. J'espère que vous avez rechargé un peu vos batteries pendant votre congé et que vous êtes prêts à attaquer la nouvelle année. Pour notre part, on enregistre les capsules à partir de la maison à cause du confinement, mais on est toujours heureux de vous offrir du contenu. Donc, pour la capsule d'aujourd'hui, on a préparé une recherche qui consiste à vous expliquer des éléments de base à connaître avant d'être devant un tribunal, en fait, le tribunal administratif du logement. Pour quelqu'un qui n'est pas vraiment familier avec le domaine du droit, je peux parfaitement comprendre que le concept d'aller devant un tribunal, ça peut sembler flou, puis le cheminement pour s'y rendre, ça peut être très abstrait. On est là aujourd'hui donc pour rendre compte, pour rendre le tout un peu plus clair pour vous. Et juste noter que nos sources pour la capsule d'aujourd'hui, c'est Éducalan et le site même du tribunal administratif du logement. Donc, pour commencer, avant de poursuivre quelqu'un, on recommande fortement là, de voir si c'est possible de régler votre conflit avant. Déposer une demande devant un tribunal, ben c'est pas gratuit et les délais, ça peut être relativement long avant d'avoir une date d'audition. Il faut vraiment penser deux fois avant d'entreprendre ce genre de démarche-là. Si vous savez qu'il y a une autre possibilité, ben c'est très important de la considérer. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir des cas où la seule solution, ça va être de se tourner vers la justice pour avoir notre dû. Donc, le tribunal administratif du logement, ça, c'est le tribunal qui va entendre exclusivement, donc juste, les litiges en matière de baux résidentiels. Donc, le TAL, ou le tribunal administratif du logement, il rend des décisions, il va renseigner les locataires et les locataires de leurs droits et il va favoriser la conciliation entre les parties. Donc ça, c'est ses devoirs. Fun fact, le tribunal administratif du logement, ben, c'est le tribunal le plus achalandé au Québec. Il va avoir environ 45 000 décisions rendues par an par ce tribunal-là seulement. Donc, c'est assez énorme. Donc, pour déposer une demande devant ce tribunal-là, ben ça c'est pas super compliqué là. Il faut vous rendre sur le site Internet du tribunal, puis votre demande, elle peut être déposée en ligne. Elle peut être faite en personne ou elle peut être faite par la poste. Si jamais vous avez un délai pour agir, par exemple 30 jours, puis que vous avez un peu tardé pour faire votre demande, ben, on suggère de la faire en personne dans les bureaux du tribunal. Ça va éviter que votre demande va être refusée pour une petite technicalité, un petit détail, puis que dans le fond, votre demande va vous être retournée par la poste pour correction. Donc, si vous le faites en ligne ou par la poste, ben, on va pouvoir manquer de temps pour renvoyer une autre demande conforme dans les bons délais. Comme j'ai dit tantôt, le tribunal administratif du logement, il doit favoriser la conciliation entre les parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va offrir donc un service gratuit, confidentiel et rapide à ceux qui se portent volontaires pour assister à des séances de conciliation. C'est vraiment super intéressant de noter que si vous assistez à une séance de conciliation, ben, ça n'affecte pas du tout votre date de cours. Votre date d'audition n'est pas plus loin dans le temps parce que vous avez décidé d'essayer de régler votre problème différemment avant. Vous n'êtes donc pas du tout perdant à essayer de vous entendre avant. La conciliation, c'est vraiment là pour stimuler une discussion entre les parties et favoriser une entente qui va prendre en compte les intérêts de tous. C'est une personne totalement impartiale qui va présider votre séance et qui va vous aider à démarrer une discussion. Vous pouvez être représenté par un avocat pendant la conciliation, mais on n'est pas là pour présenter des preuves ou faire entendre des personnes, des témoins. On est vraiment là pour discuter puis voir s'il n'y aurait pas une solution qui conviendrait à tout le monde. Si vous arrivez à vous entendre, génial, l'entente va faire office de jugement, donc va avoir le même poids qu'un jugement, puis les parties vont devoir la respecter. Et puis, ben, si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous irez simplement devant un juge à la date prévue que vous avez reçue là, sur votre papier de date d'audition. Donc, comment est-ce qu'on peut se préparer à une audience? Vous allez recevoir de la part du tribunal un avis d'audition qui va vous indiquer la date, l'heure et le lieu de votre audition. Donc, vous allez pouvoir être représenté pendant votre audition par avocat seulement si le montant de votre litige est de moins de 15 000. Donc, jusqu'à 14 999,99. Si le montant en jeu est plus petit que 15 000, rien ne vous empêche de quand même le consulter un avocat pour vous préparer, mais il ne pourra pas être avec vous le jour de votre audition. Puis, vous pouvez aussi être représenté par votre conjoint, un allié, un ami, si vous avez l'impossibilité d'être présent à votre audition. Donc, attention, votre raison doit être bonne quand même là, pour vous absenter. Donc, on parle de maladie, éloignement, etc. Vous pouvez aussi être seulement assisté d'une personne de confiance qui ne peut pas agir à votre nom. Donc, par exemple, si j'ai de la difficulté à parler le français, ou à parler tout court, ou comprendre le français, je pourrais demander à quelqu'un qui m'est proche de m'assister. Ça s'applique aussi pour les personnes âgées là, qui vont nécessiter plus d'aide ou d'organisation pour leur date de cours. La différence entre quelqu'un qui vous représente et une personne qui vous accompagne, c'est quoi? La personne qui vous représente, elle va agir en votre nom. Les actions qu'elle va faire, ce sont à votre nom. La personne qui vous accompagne, elle n'a pas le pouvoir d'agir en votre nom. Elle est seulement là vraiment là, pour support moral ou le bon déroulement de votre audition. Aussi, la personne qui vous assiste et qui vous représente si vous êtes absent doit obligatoirement le faire gratuitement, contrairement à votre avocat. Si vous voulez être accompagné tout en étant représenté, c'est aussi possible. Donc, vous pouvez avoir votre avocat présent et quelqu'un de confiance si vous voulez, il n'y a pas de problème. Puis, avant votre date de cours, c'est important de prendre connaissance de votre dossier, que vous soyez demandeur ou défendeur, c'est-à-dire que vous poursuiviez quelqu'un ou que vous soyez poursuivi, c'est important de connaître les faits. Il faut faire ressortir tous les éléments importants qui vous sont favorables, qui vont pousser un juge à être d'accord avec vous. Il faut apporter tous les documents nécessaires à votre demande ou à votre défense selon votre cas. Par exemple, on vous suggère d'apporter votre bail, des photographies, des correspondances, des preuves de paiement, des factures, des avis de modification que vous auriez pu recevoir ou envoyer. Donc, dans le fond, tout ce qui est nécessaire là, à votre dossier. Si jamais vous voulez faire entendre le témoignage de quelqu'un devant le juge, bien, c'est possible. Mais il faut lui envoyer au moins 3 jours avant la date de cours une citation à comparaître par huissier et ça, c'est fait à vos frais. Donc, la citation à comparaître, ça va les obliger à se présenter devant le tribunal pendant votre audition. Le témoin qui va être entendu à la cour, il doit avoir soit vu ou entendu les faits que vous voulez prouver. C'est fortement suggéré d'écrire les questions que vous allez lui poser avant la journée même. Et le témoin, il ne fera pas juste raconter son histoire, vous allez devoir lui poser des questions pour dégager des faits. L'autre partie a aussi le droit de poser des questions à votre témoin. Donc, c'est un pensez-y bien aussi là, si vous doutez de la crédibilité de la personne que vous appelez à témoigner. Si vous voulez poser des questions au témoin de l'autre partie, c'est aussi possible. Puis vous allez pouvoir les écrire au fur et à mesure que son témoignage se déroule. Donc, vous allez pouvoir être prêt quand c'est à votre tour de poser des questions. On vous suggère aussi de préparer vos arguments avant la date d'audition. La clé, là, c'est d'être vraiment bien préparé puis bien connaître les faits de votre litige. Le juge administratif va vous demander certainement des questions. Donc, il faut être prêt à y répondre rapidement puis de façon cohérente. Plus on est préparé, plus on semble avoir la volonté de gagner et plus on semble crédible aux yeux du juge. Donc voilà, en de très grandes lignes, des informations importantes à retenir sur le tribunal administratif du logement. C'est sûr que si vous avez d'autres questionnements, ce que je comprendrai parfaitement, le site Internet du tribunal est très, très bien fait, il est très user-friendly, ça navigue facilement, et je vous suggère d'aller y jeter un coup d'œil si vous avez d'autres questions. Merci de votre écoute et à la prochaine.
Vous risez de moi, ici.
Faut-toi pas!
Allez, je recommence. Désormais, je peux dire dans mon temps, ça implique de vrais changements. Je viens d'avant la vie dans les écrans, je viens des années 1900. Je suis officiellement vieux, je ne fais plus d'un vieux, pour peu tu me cries. Ok, boomer. Les vieilles amitiés ramollissent, on devient plate comme des polices. On est loin de notre époque rock quand on organise des potlucks le vendredi jusqu'à minuit. J'essaie de rester de bonne humeur comme si ça me rendait pas anxieux, de devenir un stéréotype sur une terrasse dans une banlieue. Le plus souvent, j'ai rien à dire, il se passe pas grand chose ces temps-ci. Anyway, vous êtes bien partis, continuez à compter vos vies. Pendant longtemps, 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 longtemps. Pendant longtemps, 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 longtemps. Pas trop culpabiliser, on politise les discussions, même si ça fait longtemps qu'on est congédié de la révolution. Après une bouteille de pinot, puis un éventail d'opinions, on règle deux, trois enjeux mondiaux, puis c'est l'appel de la maison. C'est là que moi je m'en vais m'asseoir pour écrire des couplets amers sur mes amis parce que jaloux de leur vie qui rendent les mamans fières. Vous chante dans le dos comme un chien sale, je vous jure, c'est pas pour être méchant. En vrai, c'est que je me sens perdant, si vous saviez, je vous aime tellement. Depuis longtemps, 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 longtemps. Depuis longtemps, 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 longtemps. Depuis longtemps. We'll be right back.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique et a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada de l'Université de Sherbrooke. Les étudiants de Pro Bono Students Canada ne sont pas les avocats et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule, donc, ne présente que l'exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou encore un notaire. Nos sources pour la capsule d'aujourd'hui sont le Journal de Montréal, le site Internet Protégez-vous et celui de lepropriétaire.apq.org. Donc, je vous souhaite le bonjour et re-bienvenue parmi nous. Dans notre capsule d'aujourd'hui un peu plus courte, on va discuter des assurances de logement qu'un locataire peut prendre. Encore une fois, c'est un sujet que je sais qui est un peu flou aux yeux de plusieurs personnes. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est cher, etc.? Donc, on est là aujourd'hui un peu pour démystifier l'assurance logement. La capsule est un peu plus courte. On va compléter avec un peu plus d'informations dans notre dernière capsule, donc la capsule type questions-réponses, où on va avoir un peu plus de fun facts avec des statistiques sur l'assurance logement. Donc, premièrement, un propriétaire va pouvoir exiger de ses locataires une preuve qui sont bel et bien assurés pour le logement qu'ils vont louer. Par contre, cette condition-là particulière, ça doit être inscrit dans l'annonce ou dans le bail qui devra être signé, d'où l'importance de vraiment tout lire avant de s'engager. Plusieurs propriétaires ajoutent aussi que les locataires doivent fournir la preuve à chaque renouvellement de police d'assurance. Ça reste à voir dans votre cas. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez forcé de souscrire à une assurance pour votre logement loué, mais que votre propriétaire ne vous l'avait pas mentionné avant la signature du bail ou que c'était pas écrit nulle part, ben, en principe, vous n'avez pas l'obligation d'être assuré. Si vous avez le choix de souscrire à une assurance logement, ben, il y a plusieurs avantages à le faire. Premièrement, ben, c'est pas aussi dispendieux que certains prétendent. On peut s'en tirer avec moins de, à peu près 20 $ par mois, là, puis attesterer pour 1 ou 2 millions de $ pour sa responsabilité. Il faut bien magasiner ses assurances. Oui, quitte à prendre un après-midi pour entendre de la petite musique jazz puis à parler à quelques compagnies pour se faire une idée là, du prix que ça nous coûterait par mois. L'assureur, ben, il va calculer votre prime, donc le montant d'argent que vous allez devoir payer par mois par rapport à la valeur de vos biens assurés. C'est bien important de calculer la valeur de ce que vous allez posséder dans votre logement parce qu'en cas de sinistre ou de destruction de votre logement, ben, c'est ce montant-là d'argent auquel vous allez avoir droit pour nettoyer, réparer ou remplacer les biens. Puis si vous trouvez que votre prime est trop dispendieuse après avoir magasiné, ben certaines personnes économisent en ayant leurs assurances auto et leurs assurances d'habitation avec le même assureur. Donc, ça peut être là un moyen peut-être d'aller grappiller un peu de dollars. Donc, l'assurance de votre logement, c'est pas obligatoire, mais ça permet de protéger les biens qui sont dans votre logement et ceux des autres personnes aussi qui vivent avec vous le cas échéant. L'assurance sur les biens vient habituellement avec une assurance responsabilité. Donc, avec votre assurance, si vous faites un dégât accidentel, bien, votre assureur va vous indemniser pour vos biens endommagés. Dans le fond, il va aussi payer pour les biens des autres qui auraient pu périr à cause de vous. Donc, par exemple, si vous causez accidentellement un dégât d'eau dans votre appartement, oups, et que vous endommagez le logement en dessous de vous, bien, lui aussi, il y a eu un dégât d'eau à cause de vous. Dans le fond, son plafond, là, il est saturé, là. Il y a eu des trous, mais votre assureur va couvrir les dommages. Même si c'est pas vous qui avez fait le dégât, ça peut être quelqu'un d'autre qui vit avec vous, mais votre assureur va quand même indemniser votre voisin dans plusieurs cas. Pour bien illustrer comment une assurance habitation est avantageuse, ben j'ai envie de vous raconter une petite anecdote basée sur des faits réels. C'est quelque chose que j'ai lu dans le journal, puis je trouvais ça assez représentatif des avantages qu'une assurance logement peut vous apporter. Donc, on parle ici d'un propriétaire, on va l'appeler Marc. Marc est propriétaire de plusieurs logements, puis une nuit, il est appelé par des pompiers parce qu'un des logements a pris feu. Il se rend sur les lieux, les pompiers ils disent ben ils ont réussi à contenir le feu seulement à la cuisine. Génial, bonne nouvelle. Mais la cuisine, par contre, est perte totale. Le propriétaire est soulagé, au moins tout le reste du logement est intact. Mais comment est-ce que le feu s'est produit? Ben, les pompiers vont dire que pendant le déménagement du nouveau locataire, on va l'appeler Joe, Joe a laissé des boîtes sur le four et ben, le pire est arrivé. Les boîtes ont pris feu. Les dégâts vont coûter 25 000 $ à Marc, Mais, bingo, Marc a des assurances qui vont couvrir les coûts, bien entendu. L'histoire ne se termine pas là. Dans ce genre de situation-là, les assurances de Marc, le propriétaire, vont poursuivre la personne responsable. Dans notre situation, ben, c'est la faute de Joe si la cuisine a pris feu, parce que c'est lui qui a laissé les boîtes sur le four. Mais surprise, Joe n'est pas assuré pour son logement, et donc pas pour sa responsabilité non plus. Donc, faute de recevoir un chèque des assurances de Joe, ben, les assurances de Marc vont poursuivre personnellement Joe pour les 25 000 $. Et ça va lui coûter si cher qu'une partie de son salaire va devoir être déduite pour payer sa dette. Et ça, je sais pas si vous savez, mais c'est pas un 25 000, c'est pas comme un 1 000 $ là, par mois. Ça va être sur beaucoup d'années là, que le 25 000 $ doit être payé. Donc, la morale de l'histoire, ne soit pas un Joe, soit quelqu'un de proactif qui va tenir à son argent et à son avenir. Si c'était pour économiser 20 $ par mois, c'est dans une situation bien quand même ironique là, dans laquelle il va se trouver présentement. Si vous croyez ne pas souscrire à une assurance parce que vos biens, ben, ils valent pas la peine d'être assurés, oubliez pas que les assurances vous couvrent aussi si vous êtes poursuivi pour des dommages. On sait jamais ce qui peut arriver, puis on est mieux d'être préparé. Selon le Bureau d'assurance du Canada, à peu près un quart des locataires québécois n'ont pas présentement une assurance habitation pour leur logement. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ce pourcentage-là est quand même énorme. C'est sûrement dû au fait que plusieurs personnes pensent que de payer pour assurer leur bien de peu de valeur, ben, ça vaut pas la peine, alors qu'on vient de voir ensemble, ben, que c'est pas une très bonne raison. Faut surtout pas oublier qu'on peut se faire poursuivre pour la perte des biens des autres, et ça, ça peut coûter cher. Un accident est si vite arrivé, et c'est pourquoi il est fortement suggéré de souscrire à une assurance habitation. Une poursuite, ben, ça peut vous ruiner si vous êtes tenu responsable des dommages causés à votre voisin. Et n'oubliez pas que ça peut gravement affecter vos épargnes, voire votre code de crédit. C'est sur ces informations un peu dark là, que ça se clôt notre capsule d'aujourd'hui sur les assurances pour votre logement. J'espère que vous avez tiré profit de cette capsule-là, que vous avez profité pour demander à votre coloc si vous êtes assuré ou si vous avez vérifié sur votre bail l'obligation pour vous d'en avoir une. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et on se revoit à la prochaine capsule.
Bonjour! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la capsule numéro 13 des capsules sur le droit du logement qui portera aujourd'hui sur la discrimination. Donc, la présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section PBCS, Pro Bono Students Canada, de l'Université de Sherbrooke. Les étudiants de PBSC ne sont pas avocats ou avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate ou encore une ou un notaire. Merci. Nos sources pour aujourd'hui sont Éducaloi, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, l'Office des personnes handicapées du Québec et le Tribunal administratif du logement. Donc, au Québec, c'est illégal de faire de la discrimination dans le domaine du logement. Une personne ne peut donc pas subir de discrimination ni au moment de louer un logement, ni pendant la période durant laquelle ce dernier occupe l'espace loué. C'est donc interdit pour un propriétaire ou toute autre personne chargée au nom du propriétaire de trouver des locataires de refuser de louer un logement à quelqu'un pour quelconque que motif discriminatoire. Ça serait aussi le cas là, pour, par exemple, un concierge qui travaillerait au compte du propriétaire pendant que vous avez loué le logement, là, vous faites discriminer par lui d'une façon ou d'une autre. Votre propriétaire pourrait également être tenu responsable de ce genre de comportement et de situation. Donc, 14 motifs discriminatoires sont d'ailleurs prévus à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Donc ça, c'est tout des motifs discriminatoires qui sont protégés justement par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Par contre, il ne faut pas confondre ces motifs discriminatoires à d'autres motifs qu'un propriétaire a le droit d'utiliser pour refuser de louer un logement à un individu. Des exemples de ça, ça serait le fait pour un individu de ne pas être en mesure de payer son loyer. Dans ce cas-là, on ne parle pas du fait qu'il n'ait pas d'emploi ou qu'il reçoive de l'aide sociale, mais vraiment de sa capacité à payer, peu importe sa situation. Refuser de signer un bail avec quelqu'un qui a la capacité de payer mais qui n'a pas d'emploi ou reçoit de l'aide sociale serait alors considéré comme de la discrimination. Mais si c'est vraiment le fait qu'il ne puisse pas payer, là, on est dans nos droits en tant que propriétaire de refuser de louer un logement à cet individu. Sinon, le fait d'avoir un casier judiciaire dans certains cas ou d'avoir préalablement manqué à ses obligations en tant que locataire peut également constituer des motifs raisonnables pour refuser de louer un logement à un individu. Un autre exemple intéressant est celui des clauses non-fumeurs. C'est sûr que de nos jours en 2020, ça fume moins que dans le temps de nos parents, par exemple. Là, je parle pour moi-même, j'ai 21 ans, donc c'est certain qu'il y a beaucoup moins de fumeurs, mais ça reste qu'il y a quand même une partie de la population qui fume. Et comme la protection contre la fumée secondaire a, depuis quand même quelques années, été reconnue comme étant un objectif légitime et important pour la société, il est justifié pour un propriétaire d'inclure de telles clauses, autant pour le tabac que pour la marijuana qui a justement été légalisée il y a pas très longtemps au Québec. Dans le fond, dans les deux cas, ça ne peut pas être considéré comme de la discrimination de refuser là, que le locataire fume à l'intérieur du logement. Cela étant dit, il y a plusieurs débats toujours en cours par rapport à l'utilisation de la marijuana à titre médical, car certains considèrent le fait qu'on puisse refuser de leur laisser louer un logement pour cette raison devrait être reconnu comme étant un motif de discrimination pour handicap, car ils considèrent que comme ils en ont besoin à titre médical, c'est comme pour pallier à un handicap, si on pourrait dire de cette façon-là. Penchons-nous plus précisément sur les cas où le locataire est une personne handicapée. Bien que le locataire puisse inclure dans son bail qu'il refuse les animaux dans son immeuble, il est possible pour une personne handicapée d'avoir un animal qui l'aide à pallier son handicap. Par exemple, un chien guide pour une personne aveugle. Dans ce cas, la personne handicapée devra démontrer au tribunal administratif du logement qu'il a besoin de son animal pour pallier à son handicap. Une fois que le tribunal va autoriser au locataire handicapé d'avoir son animal, ce dernier doit tout de même faire attention à ce que l'animal ne trouve pas la jouissance de l'immeuble aux autres locataires qui y louent un logement, qui ont un bail puis qui payent dans le fond pour justement avoir une jouissance paisible de l'immeuble. Que faire si on croise être victime de discrimination? Si vous avez déjà signé un bail avec le propriétaire, c'est possible de porter plainte au tribunal administratif du logement ainsi qu'à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Par contre, si vous avez été victime de discrimination lors du processus en vue de louer un logement, mais qu'aucun bail n'a été signé, vous pouvez alors porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Si vous portez plainte devant la commission, vous devrez prouver qu'il y a eu discrimination. Pour cela, c'est important de fournir une plainte bien documentée, car elle aura plus de chances d'être retenue. Il faut donc noter toutes les informations qui semblent pertinentes au dossier, telles que la raison pour laquelle le propriétaire aurait refusé de signer un bail avec vous, le nom du propriétaire ou la personne rencontrée qui agit pour ce dernier, l'adresse où se situe le logement, le fait que le logement soit toujours disponible à la date de la plainte, si c'est le cas, et toutes les autres informations qui pourraient sembler importantes. Si la commission retient la plainte, elle décide par la suite si elle prendra le dossier en charge sans frais ou si la victime ira par elle-même devant le tribunal. Avant que la commission propose des mesures de redressement ou même qu'elle transmette le dossier au tribunal des droits de la personne, on propose aux propriétaires et aux locataires de prendre part à une séance d'arbitrage ou de médiation. S'ils refusent ou encore que la médiation ou l'arbitrage ne mène à rien, c'est à ce moment que la commission proposera les mesures de redressement au propriétaire pour que ce dernier cesse de discriminer le plaignant. Au besoin, elle peut même obliger le propriétaire à dédommager le plaignant. Si le propriétaire refuse de se soumettre aux mesures de redressement, la commission peut alors transmettre au tribunal des droits de la personne qui peut ordonner au propriétaire de prendre les mesures jugées nécessaires pour qu'il n'y ait plus de discrimination à l'égard du plaignant et que le propriétaire verse une somme d'argent à ce dernier à titre de dédommagement. En gros, le tribunal des droits de la personne est un tribunal spécialisé et il siège dans tous les districts judiciaires du Québec. Il entend les litiges portés devant lui, soit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ou par des particuliers. Les dossiers entendus portent sur la discrimination, le harcèlement, l'exploitation des personnes âgées ou handicapées et les programmes d'accès à l'égalité. Voici maintenant un exemple plus concret, un jugement rendu en mars 2017 par le Tribunal des droits de la personne par rapport à un dossier de discrimination fondé sur un handicap, qui a établi plusieurs points intéressants en lien avec l'application des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne en cas de discrimination. Donc, le dossier portait sur la situation d'une femme handicapée, propriétaire d'un logement dans un immeuble en copropriété indivise qui se faisait bloquer l'accès à son domicile par les autres propriétaires pour des raisons qui semblaient injustifiées. Les trois conditions utilisées par le tribunal pour conclure s'il y a eu discrimination ou pas sont qu'il y ait une situation d'exclusion ou de préférence envers la personne fondée sur l'un des motifs prévus à l'article 10 de la charte que j'ai nommé au début de la capsule et qui a eu pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et des libertés de la personne. Dans le cas de la dame, le tribunal a jugé qu'il y avait bel et bien eu discrimination et le tribunal a également statué qu'une chicane de voisin ne pouvait justifier un comportement qui tendait à discriminer une partie. L'obligation d'accommodement pour permettre aux personnes handicapées d'exercer leurs droits, dont l'accès à leur logement, qui est imposé par le Code civil du Québec, doit toujours être respectée, à moins qu'il y ait un motif justifiable de ne pas pouvoir le faire. Donc, c'est tout pour la capsule numéro 13. Merci beaucoup.
Bonjour, chers auditeurs. Le thème suivant que l'on voudrait aborder avec vous porte sur les personnes âgées et le logement. En 2017, sur 8,4 millions de Québécois, on compte 3,4 millions de personnes âgées de 50 ans ou plus et 1,6 million de personnes âgés de 65 ans ou plus. Selon l'Institut de la statistique du Québec, dans 7 ans, c'est-à-dire en 2028, on estime que le quart des Québécois seront âgés de 65 ans ou plus. Il nous apparaît donc capital de nous intéresser au logement des personnes âgées. Dans un premier temps, nous allons vous parler brièvement des CHSLD et de la notion générale d'exploitation, et de manière plus approfondie, des recours en matière de logement dont disposent les aînés qui nécessitent des soins requis pour leur santé. Et pour ce faire, nous allons mettre en œuvre un personnage fictif, Pierre, 75 ans, que nous accompagnerons dans ces démarches. Alors, les CHSLD, c'est quoi ? Les CHSLD sont des centres d'hébergement de soins de longue durée, avec l'appartement supervisé, la résidence de groupe et la résidence privée pour aînés, les CHSLD font partie des lieux d'hébergement habilités à prodiguer des soins infirmiers ou des services d'assistance personnelle. Les CHSLD sont accrédités par le Conseil québécois d'agrément et Agrément Canada. Cette accréditation doit être renouvelée tous les 5 ans et pour la maintenir, les CHSLD doivent distribuer aux résidents et à leurs familles des questionnaires pour évaluer leur niveau de satisfaction. Chaque CHSLD doit mettre en place un comité d'usagers responsable d'informer les résidents de leurs droits, défendre leurs intérêts et tenter d'améliorer la qualité des services proposés. Il arrive que le ministère de la Santé et les services sociaux fassent des visites dans ces établissements pour s'assurer de la qualité des services offerts. Disons-le dès maintenant, les personnes âgées pourraient être vulnérables et de fait être les cibles, voire les victimes de comportements malveillants. La Charte québécoise des droits et libertés prévoit que les personnes âgées ont le droit d'être protégées contre toute forme d'exploitation. Mais qu'est-ce qui constitue une exploitation au juste? De manière générale, quand on exploite quelqu'un, on profite de cette personne. L'exploitation peut prendre plusieurs formes, financières, physiques ou émotionnelles. Voici quelques exemples. Obtenir de l'argent en utilisant la force ou des menaces. Empêcher une personne de recevoir de la visite, communiquer avec ses proches ou recevoir du courrier. Faire mauvais usage d'un mandat de protection. On verra plus tard ce que c'est. Exercer de la pression sur une personne pour qu'elle change le contenu de son testament. Faire preuve de négligence face aux besoins d'une personne âgée nécessitant un logement, des vêtements, une alimentation saine et des soins médicaux adéquats. Ou encore, imposer un traitement médical sans le consentement de la personne âgée. Comment donc une personne âgée peut-elle se prémunir contre l'exploitation? L'un des moyens les plus efficaces est la rédaction d'un mandat de protection. Alors c'est quoi un mandat de protection? Un mandat de protection est tout simplement un document juridique dans lequel le mandant, c'est-à-dire le majeur protégé, confie à une personne en qui il a confiance, c'est-à-dire le mandataire, la tâche de prendre des décisions en son nom. Parfois, on entend les gens utiliser le terme procuration pour faire référence à un mandat de protection. Le mandat ou procuration permet à quelqu'un que la personne âgée aura désigné de poser des gestes en son nom. Ces gestes peuvent comprendre retirer de l'argent d'un compte en banque, vendre un bien, signer un document, etc. Un autre moyen qu'une personne âgée peut entreprendre pour se prémunir contre l'exploitation est de rédiger son testament pour déterminer qui héritera de ses biens. Si une personne âgée est victime d'exploitation, la commission des droits de la personne est des droits de la jeunesse ou encore la ligne aide à but aîné sont des ressources vers lesquelles elles peuvent se tourner. La commission s'assure que les protections garanties par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne sont respectées. La ligne aide à but aîné offre gratuitement une ligne d'écoute bilingue et confidentielle pour les personnes âgées victimes d'exploitation. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les lieux d'hébergement, de soins et les exploitations potentielles dont peuvent être victimes certaines personnes âgées, examinons le cas de Pierre, cet homme de 75 ans que la santé commence à quitter. Alors Pierre, 75 ans, est locataire du même appartement depuis plus de 15 ans. Il n'est pas à l'aise à l'idée de changer d'appartement. Cependant, monter et descendre les escaliers de son immeuble est devenu difficile pour lui. Ça lui cause de l'anxiété et ça le rend nerveux. Peut-il, c'est la question que nous nous posons, peut-il mettre fin à son bail avant le terme de celui-ci pour aller vivre dans une résidence pour personnes âgées? Et si oui, de quel droit pourra-t-il bénéficier dans une telle résidence? Alors la réponse est oui, Pierre pourra mettre fin à son bail avant le terme de celui-ci pour aller vivre dans un établissement qui offre des soins requis pour son état de santé. Une fois que Pierre aura envoyé à son propriétaire les documents pour mettre fin à son ancien bail, il pourra signer un nouveau bail avec la résidence privée de son choix. La résidence privée devra utiliser le formulaire obligatoire du tribunal administratif du logement. Quels documents sont requis ? Trois documents. Trois documents sont requis afin de résilier le bail de Pierre. Premièrement, un avis écrit de départ et de résiliation de bail. Deuxièmement, une lettre de la résidence où Pierre va emménager. Et troisièmement, le rapport d'un professionnel de la santé et des services sociaux qui attestera du fait que les conditions d'admission de Pierre sont remplies. Et ces conditions d'admission réfèrent tout simplement à son état de santé. Qu'il vive dans une résidence privée ou un établissement, public ou privé, Pierre aura entre autres le droit d'être traité avec dignité, le droit à sa vie privée et le droit de vivre dans un endroit propre et sécuritaire. Dans le cas d'une résidence privée, c'est-à-dire une résidence dirigée par une autre personne que le gouvernement, ou une personne autre que le gouvernement, dans le cadre d'une résidence privée, donc, il aura aussi accès à des informations relatives aux services offerts, tels que l'hygiène, les soins médicaux, les systèmes d'appel à l'aide, les divertissements, le transport, avec le coût correspondant à chaque service. Il faut cependant garder en tête que certains établissements privés peuvent ne pas être tenus de fournir ces informations supplémentaires à leurs résidents, en vertu de leur contrat avec le réseau public de la santé et des services sociaux. Dans le cas où Pierre pensait être victime de mauvais traitements, il pourrait trouver conseil auprès d'organismes de services de santé ou de services sociaux. Imaginons maintenant que ce même Pierre devienne inapte au sens de la loi, c'est-à-dire incapable de prendre ses propres décisions sur son bien-être ou l'administration de ses biens. Que pourrait-on faire pour s'assurer qu'on respecte ses choix relativement à l'endroit où il souhaite vivre? Alors, il faut envisager trois possibilités. La première, c'est dans le cas où Pierre devenait inapte en ayant au préalable rédigé un mandat de protection. Dans ce cas, la personne qui l'aura désigné à l'avance prendra les décisions relatives à son bien-être et à l'administration de ses biens. Le mandat de protection permettra à Pierre de nommer une ou plusieurs personnes en qui il a confiance pour prendre des décisions en son nom au cas où il devenait incapable de le faire lui-même. Pour créer un mandat de protection, il faut d'abord discuter de ses choix avec les membres de sa famille, puis faire homologuer le mandat de protection auprès d'un tribunal. Et de cette manière, le mandat homologué donne lieu à un régime de protection. La deuxième possibilité qu'il faut envisager, c'est si Pierre devenait inapte sans qu'il n'ait au préalable rédigé un mandat de protection. Dans ce cas, une personne de son entourage sera nommée par un tribunal pour prendre décision au nom de Pierre. Si personne n'est disponible, des mécanismes juridiques spécifiques seront alors mis en place. La troisième possibilité qu'il faut envisager, c'est dans le cas où Pierre devenait inapte et qu'il refusait d'aller vivre dans un établissement de santé comme un CHSLD. Dans ce cas, seule une autorisation du tribunal pourrait le forcer à aller vivre dans un tel établissement. Et le tribunal devra alors consulter un proche sur la question, à moins que les circonstances rendent cette consultation impossible.
Thank you. Si t'as un petit peu de temps, on pourrait hey. Pique-nique dans le parc, végé par des couchers de soleil. Elle hoche la tête vers la gorge, puis prend la fuite. Le reste de l'histoire, c'est qu'attend la suite. Elle veut rien savoir de moi, où est-ce le timing? J'essaie d'avoir les réponses, mais elle veut rien dire. J'ai peut-être craché les choses, pardonne-moi. Parfois j'en mets un peu trop à cause de toi. They always stuck in my head, and I keep thinking que tu vaux vraiment la peine, so I keep dreaming. Tu m'as fait perdre la tête, yeah, am I dying? Tu me fais pas rire, tu me tais. Je suis mort de rire. Je m'en fous où tu es ou où tu dormiras. Never been your dog et encore moins Mira. They always stuck in my head et incapable de faire sortir ma tête qui spin comme une torpille. Est-ce qu'il y aurait moyen de taire ton rire morbide?
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada de l'Université de Sherbrooke. Les étudiants de Pro Bono Students Canada ne sont pas des avocats et n'ont donc pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente donc qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un ou une avocate ou encore un ou une notaire. Donc, rebonjour, on se retrouve pour notre dernière capsule, donc la capsule qui conclut pour notre troisième enregistrement. Pour ma part de questions-réponses aujourd'hui, j'ai trouvé à la place quelques faits statistiques surprenants, plus intéressants, pour rappeler un peu la capsule que j'ai faite sur les assurances habitation. Donc, tous les faits que je vais énoncer aujourd'hui nous viennent directement du site Internet de Economical Assurance. Donc, vite en rafale, le coût moyen des dommages subis lors d'un incendie d'appartement est supérieur à 65 000 $ au Canada. Imaginez la dette que vous auriez si vous n'avez pas d'assurance pour rembourser ce montant-là. Et puis, près d'un quart des incendies résidentiels au Canada ont lieu dans les appartements. Donc, ça vous montre à quel point là, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Puis, au Canada, les locataires vont subir le plus grand nombre d'entrées par infraction, avec un total impressionnant de 125 000 cas déclarés en 2014. Donc, les locataires sont les principales là, victimes d'entrées par infraction. Puis, la même année, donc en 2014, il y a 248 000 cas de vol de biens dans des logements qui ont été déclarés, puis 143 000 des cas de vandalisme dans des immeubles locatifs ont été rapportés à la police. Donc, quand on parle de cas de vandalisme, et on ne pense pas seulement à des graffitis, ça va être aussi comme des bris de fenêtres, des trous dans le mur, etc. Donc, c'est quand même assez énorme là, pour les cas rapportés à la police par les locataires. Puis, j'ai aussi trouvé un autre bel exemple de pourquoi c'est important d'avoir des assurances. En 2009, il y a une locataire qui a invité des amis à venir coucher chez elle là, dans son logement en mode sleepover. Oui, dans le temps qu'on pouvait encore faire ça, là, voir des gens dans la vie courante. Eh bien, imaginez ma surprise quand j'ai lu le cas, puis j'ai lu la façon dont les amis sont entrés dans le logement. Ben, c'était défoncer la porte, puis le corps de porte parle ce même. Donc ça, c'est allé devant le tribunal. Le tribunal administratif du logement, ben, il a tenu la locataire responsable des dommages du comportement de ses amis, parce qu'en fait, c'est elle qui a invité ses amis, puis c'est elle qui leur a donné l'accès à l'immeuble pour venir la visiter. Je ne sais pas si vous savez, mais ça coûte quand même assez cher une porte. Là. Ça lui a coûté à peu près 1000 $ sans compter le fait que ça doit être pas mal drôle de se croiser dans l'immeuble après, par la suite. Là, tu croises ton propriétaire, puis tu sais que tes amis sont responsables d'avoir défoncé ton corps de porte. En tout cas, ça doit être assez spécial.
Donc, pour y aller dans la même lignée que Charlotte, j'ai également déniché quelques statistiques intéressantes par rapport à la discrimination qui était ma capsule lors de la recherche de logement. Donc, selon un article de Radio-Canada qui portait entre autres sur un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse entre 2006 et 2016, le nombre de plaintes pour discrimination lors de la recherche de logement a augmenté de 35 %. 767 dossiers de plaintes ont été ouverts au cours de ces 10 années, dont le tiers, donc soit approximativement 250, portaient sur la discrimination sur l'ethnie ou la couleur de peau d'une personne. Puis dans le fond, quand je dis au niveau de la recherche de logement, ça veut dire que ces plaintes-là incluent pas les locataires qui ont signé des bails. C'est vraiment juste les gens qui sont allés visiter. Donc, ça montre qu'il y a quand même relativement, malheureusement, encore beaucoup de discrimination, surtout pour les personnes d'une ethnie ou d'une couleur de peau différente. Donc, voici maintenant quelques questions-réponses en rafale.
Alors, Catherine, on aimerait savoir si, en tant que locataire, mon locateur potentiel peut demander le nom et l'adresse de mon employeur ou mon salaire annuel pour vérifier ma capacité à payer mon loyer?
En fait, c'est une très bonne question et non, ce sont des renseignements confidentiels qu'un propriétaire n'est pas normalement autorisé à vous demander. Votre propriétaire, ben, potentiel propriétaire, pourrait plutôt vous demander le nom de votre propriétaire actuel ou le coût de location du logement que vous louez actuellement, s'il veut essayer de déterminer votre capacité à payer.
Bon, une autre petite question. Si je te mets dans un contexte, là, petite mise en situation, M. Gagnon engageait un concierge, puis ce concierge-là, il semble avoir des comportements discriminatoires envers certains locataires dans son immeuble. Est-ce que, M. Gagnon se demande si lui-même peut être tenu responsable du comportement de son propre concierge?
Donc, M. Gagnon peut certainement être tenu responsable, autant le propriétaire que les personnes qui l'ont engagé ou qui agissent au nom de M. Gagnon, donc dans ce cas-ci le concierge, ont l'obligation de respecter les droits des locataires. Et comme le concierge a été engagé par M. Gagnon lui-même, autant ce dernier que le concierge pourrait être tenu responsable si un locataire porte plainte. Pour finir, dernière petite mise en situation, Vincent et sa conjointe Aurélie, enceinte de 4 mois, vont visiter un logement. Le propriétaire remarque pas le début de grossesse d'Aurélie et leur fait part du fait qu'il déteste les enfants et ne louerait jamais l'un de ses logements à une famille. Est-ce que le propriétaire a le droit de refuser la future famille pour cette raison? Non, ça serait clairement discriminatoire. On ne peut ni refuser de louer un logement à quelqu'un parce qu'elle est enceinte, ni parce qu'elle a déjà des enfants. Des questions du type « Prévoyez-vous avoir des enfants bientôt? Quels seront leurs sexes? Combien prévoyez-vous en avoir? » ne peuvent pas être posées par le propriétaire en vue de décider s'il veut signer un bail avec vous ou non.
Alors, pour continuer dans la lignée des questions-réponses auxquelles maintenant vous êtes bien habitués, chers auditeurs, nous allons procéder à quelques questions-réponses en lien avec les personnes âgées et le logement. Alors, la première question, je pense, vient de Charlotte.
Oui, donc, première question, Amine. Si, en fait, une personne âgée qui vit dans une résidence pour personnes âgées où elle va recevoir des soins puis des repas, elle va s'apprêter à quitter ce logement-là pour aller vivre dans un CHSLD. Cette personne-là doit-elle payer pour tous les soins et services, même ceux qu'elle ne reçoit pas?
Merci Charlotte. La réponse est non. Cette personne ne sera tenue de payer que les services et les soins qu'elle reçoit. En principe, lorsque le locataire quitte le logement avant la résiliation du bail, il doit continuer à payer le loyer jusqu'à la date prévue de résiliation du bail. Cependant, dans les circonstances que tu as décrites, si des services qui se rattachent à sa personne lui sont fournis, eh bien, il ne sera tenu de payer que pour les services reçus avant son départ.
Deuxième petite question. En règle générale, est-ce que c'est possible de mettre fin à son bail avant le terme de celui-ci en toute légalité?
Merci Catherine, tout à fait. Il est tout à fait possible de mettre terme à, ou de mettre fin à son bail avant le terme de celui-ci, à condition de conclure une entente avec son propriétaire. Donc, si le locataire et le propriétaire parviennent à une entente, et il faudrait coucher cette entente sur papier, c'est-à-dire par écrit, eh bien, le document pourra confirmer l'accord du propriétaire, la nouvelle date de fin du bail et tout autre détail que les parties jugent nécessaire. Donc, à condition d'une entente entre proprio et locataire, il est tout à fait possible de mettre fin à son bail. Alors, la dernière question que nous allons voir aujourd'hui, qui conclut donc notre capsule question-réponse, c'est la suivante. Un locataire peut-il résilier le bail en cours s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap? Et la réponse est oui, absolument. Donc, si le bail est de 12 mois, la résiliation prendra effet 2 mois à partir du moment où le locataire envoie un avis au propriétaire. Maintenant, si le bail est à durée indéterminée, donc il y a deux cas de figure, soit le bail est de durée de 12 mois, soit il est à durée indéterminée, et bien dans ce dernier cas, la résiliation prendra effet 3 mois à partir du moment où le locataire envoie un avis au propriétaire. Donc, juste pour récapituler, si le bail est de 12 mois, la résiliation prend effet 2 mois à partir du moment où le locataire envoie un avis au propriétaire. Sinon, si le bail est à durée indéterminée, la résiliation prendra effet 3 mois à partir du moment où le locataire envoie l'avis au propriétaire. Et notons que ces délais ne s'appliquent pas si les deux parties conviennent d'autre chose. Donc, ça veut dire que le logement a été libéré par le locataire ou qu'il a été reloué, bien ces délais ne s'appliqueront plus. Voilà, ces dernières questions-réponses concluent la capsule d'aujourd'hui et nous avons hâte de vous retrouver dans quelques semaines pour d'autres capsules balado-logement relatives à vos droits et obligations. Merci.
Merci, au revoir.